Je suis allé voir la bataille de Gaulle partie 2, avec un peu de retard parce que j'étais en vacances, désolé. Je vous avais déjà parlé de la partie 1 le mois dernier et mon avis avait été assez mitigé. D'ailleurs j'ai bien lu vos commentaires, vous m'avez trouvé très dur, trop dur avec ce film. J'avais dit que je l'avais ressenti comme un biopic conventionnel, convenu, un peu lent et un cruel manque de souffle. Et je maintiens mes critiques, même si j'avoue avec le recul je serais un peu moins dur avec lui. Maintenant vu que c'est un diptyque donc en deux parties, il faut le juger dans sa globalité. Alors cette partie 2 a-t-elle remonté le niveau ? J'attendais une montée en puissance, une montée en intensité, est-ce que ça a été le cas ? Avec l'armée d'Afrique et la deuxième DB, le débarquement, tout ça, personnellement, je le sentais plutôt bien. Il y avait de quoi faire, disons. Alors, cette partie a-t-elle été à la hauteur ? Saura-t-elle me faire revoir mon jugement ? C'est ce que nous allons voir maintenant. La bataille de Gaulle, partie 2, j'écris ton nom, toujours réalisé par Antonin Baudry. Ouais, je sais, j'ai fait que de l'appeler Antoine dans la première vidéo, désolé. On s'était quitté à la mort de Darlan, incarné par Mathieu Kassovitz, et au retour de Gaulle à la BBC. Là, l'action reprend en janvier 43, à la fois en Afrique du Nord avec les troupes de Leclerc en Libye, mais aussi dans la France occupée avec la résistance et l'armée secrète qui se met en place sous la direction de Jean Moulin. Les ingrédients sont là, les bases sont posées, maintenant... Qu'est-ce que ça donne ? Eh ben on va voir ça. La France libre, ses symboles, ses valeurs, vous les retrouverez chez Kalos, qui est à nouveau le partenaire ô combien pertinent de cette vidéo. En effet, vous y retrouverez une gamme de bijoux France libre, tout simplement, avec cette belle croix de Lorraine déclinée en collier, mais aussi en chevalière. Honnêtement, ça a du style. Ça a du style et comme toujours avec Kalos, c'est riche de sens. Au-delà de cette gamme, vous retrouverez également des vêtements, accessoires et autres bijoux, avec la gamme Empire, que j'apprécie tout particulièrement, l'anneau de Jeanne d'Arc ou encore bien d'autres colliers, bracelets et chevalières qui véhiculent notre héritage royal, antique ou chrétien, avec notamment la chevalière Saint-Michel que je porte, et la croix aussi d'ailleurs. Tout ça fait en France, bien sûr, par un artisan joaillier. Grosse nouveauté, Kalos vous propose désormais de sublimes tableaux d'art. Ils sont superbes, hein, franchement, allez-y, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai pris celui-là, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, maintenant je l'ai installé derrière, malheureusement, avec le reflet de la vitre, on le voit pas trop, c'est dommage. Bref, que ce soit pour leur gamme France Libre, très à propos, ou pour le reste de leur catalogue, rendez-vous dès maintenant sur leur site, grâce au lien en description, et avec le code LAN10, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction, profitez-en. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie 2 ? Bah déjà, je trouve qu'elle commence très bien. Je vous l'ai dit, on suit certes la résistance qui se met en place en France, mais on suit aussi et surtout les forces françaises libres du général Leclerc en Afrique du Nord. Et la scène d'ouverture n'est autre qu'une attaque surprise de ces mêmes FFL accompagnés de leurs tirailleurs sur un camp italien en Libye. La bataille est nerveuse, elle nous met tout de suite dans le rythme, on l'a enfin, cette montée en intensité, à Paris comme en Afrique du Nord. Donc ça commence bien et ensuite bah, cette tension ne va pas nous lâcher. Après l'Afrique du Nord et Leclerc, je vais y revenir souvent à Leclerc, place à De Gaulle évidemment. On le retrouve face à son nouveau rival, non plus Darlan, mais Giraud, qui est incarné par Thierry Lhermitte, dans son bras de fer très intense avec les Américains aussi. Les Américains veulent Giraud, et les Anglais, Churchill, n'ont pas d'autre choix que de suivre la position américaine. De Gaulle se bat, il refuse catégoriquement d'être sous les ordres de ce général qui embarque avec lui des vichistes. Les refus, les courriers, les rencontres, les tensions, c'est un véritable thriller politique. Mais malheureusement, il ne pèse pas grand-chose. Pour assurer sa légitimité, il va devoir compter sur Jean Moulin, avec le futur CNR, ça on en parlera plus tard. Mais il va aussi et surtout devoir compter sur un homme, le général Leclerc et ses succès militaires. Les Français libres, traqués comme des rats par les hommes de Giraud, ne sont qu'une poignée, une dizaine de milliers tout au plus. Mais ils se battent et ils n'ont jamais baissé les bras. Giraud a l'armée d'Afrique, 400 000 hommes, les Français libres n'ont que leur hargne et leur sens du sacrifice et du devoir. L'honneur et le devoir, c'est tout ce qu'incarne celui qui est, selon moi, le personnage principal de cette partie 2. Leclerc. Leclerc qui se bat comme un lion en Libye, Leclerc qui refuse d'écouter les ordres de Giraud et rejoint les Britanniques pour se battre à leur côté. Ça va donner lieu à une bataille mémorable lorsque les forces françaises libres couvrent le flanc gauche de Montgomery face aux troupes blindées de Rommel. Ils sont un millier seulement, sans aviation, sans blindés, et pourtant, ils s'apprêtent à faire face à une Panzer Division entière avec ses chars et ses Stuka. Leclerc harangue ses hommes, désespéré, il fait face au feu, debout, seul, avec sa canne levée, attendant de donner le signal à ses canons. Tout semble perdu et pourtant ils se battent, ils résistent héroïquement. Malheureusement, les blindés allemands sont trop nombreux et il faudra compter sur une aide britannique de dernière minute. Mais l'important, c'est que le message est passé et il est diffusé partout dans la presse. Un homme, Leclerc, et sa poignée de soldats ont fait face à une division entière de Rommel et ont tenu bon. Cet acte de bravoure relance un peu la cote de De Gaulle et des Français libres parce qu'elle est là, l'âme de la France. La bataille est superbe à l'écran, la tension et le souffle sont au rendez-vous. On a droit à de belles images de ces Panzer Division et de ces affrontements qui sont franchement... On voit qu'il y a du budget, quoi. Pour le coup, c'est réussi. Même si, honnêtement, faudra m'expliquer pourquoi tirer au fusil mitrailleur sur des blindés. Ça, j'ai dû rater un truc, je sais pas, dites-moi. Et Leclerc, franchement, mais quel charisme. C'est le charisme incarné tout au long du film. Chapeau à l'acteur qui l'incarne. On revient ensuite aux intrigues politiques avec De Gaulle qui lutte contre Giraud et surtout contre les Américains. Eux, ils ne veulent absolument pas de lui, mais surtout, ils veulent imposer l'âme goth, qui est littéralement une occupation militaire et une vassalisation de la France. Je trouve important d'avoir abordé ce sujet trop souvent ignoré. Et aussi, je trouve que c'est rare, très rare, de voir à l'écran les Américains présentés sous cet angle. Ils ne sont pas du tout montrés comme des sauveurs, porteurs de la liberté. Ils sont limite montrés comme des prédateurs, froids et calculateurs de leurs propres intérêts uniquement. Et ça se transmet très bien avec le ton hautain et arrogant de Roosevelt. Et Churchill, au milieu de ça, le pauvre, bah, il peut pas faire grand chose. Il le dira d'ailleurs, hein, ma croix la plus lourde à porter durant cette guerre aura été la croix de Lorraine. Et c'est très intéressant de voir comment il est tiraillé entre son affection pour De Gaulle, même si c'est une épine dans le pied pour lui, parce qu'il doit obéir aux Américains. Pourquoi ? Parce que c'est les Américains qui s'apprêtent à intervenir et à changer le cours de la guerre, sur le flanc ouest en tout cas. Mais De Gaulle tient bon, il ne lâche rien, et il finit par se faire une place, puis à évincer Giraud. Je passe les détails. Un vrai thriller politique, je vous l'ai dit, et qui nous tient en haleine. Je dirais d'ailleurs que le film, à bien y réfléchir, eh bien, il se décompose en deux parties. Le thriller politique, avec De Gaulle face à Giraud et aux Américains, et aussi l'épopée militaire avec Leclerc. Et c'est très bien fait. C'est cette épopée militaire qui va apporter ce souffle qui manquait cruellement, selon moi, à la première partie. On le suit encore dans ses échanges avec Jean Moulin, qui prépare la résistance, l'armée secrète, le CNR, avant d'être évidemment capturé, torturé et tué par les Allemands. Puis vient le débarquement en Normandie. Alors là, évidemment, hein, c'est pas le sujet central du film. On a quelques images des parachutages au beau matin, hein, les divisions aéroportées, mais sinon c'est des images d'archives, hein. Fallait pas s'attendre à plus que ça, fallait pas s'attendre à un débarquement type soldat Ryan, quoi. Le débarquement en Normandie, donc, est l'entrée en jeu d'une nouvelle force ô combien importante, la 2e DB, confiée à Leclerc, bien sûr. Après l'Afrique du Nord, donc, on retrouve donc le général sur le sol français, qui lui aussi doit lutter pour se faire une place et lutter contre le pouvoir central des Américains. Les Américains veulent Berlin, ils veulent y être avant les Russes, ils ne veulent pas se casser les dents sur Paris et perdre du temps. Mais Paris, c'est précisément la mission sacrée qu'a confiée De Gaulle à Leclerc. C'est la bataille ultime, symboliquement incontournable. Paris doit être libérée, mais elle doit l'être par des Français. Et alors que les Américains refusent d'envoyer la 2e DB à Paris, Leclerc outrepasse les ordres et, fidèle à son instinct, fonce vers la capitale. Un soldat qui ne fait que son devoir, en somme. Finalement, il sera appuyé par Eisenhower, qui lui fournira le carburant et les munitions nécessaires. Et heureusement qu'Eisenhower était là, d'ailleurs. L'arrivée des blindés de la 2e DB dans un Paris sous insurrection, elle est bien réalisée, bien faite, même si on reste un peu sur notre faim. Je dis un peu parce que directement après viennent des images d'archives et cette voix off qui nous compte avec force le fameux « J'écris ton nom ». Et là, les émotions sont au rendez-vous. Le film se termine avec un De Gaulle qui a repris les rênes de son pays, acclamé par son peuple au nez et à la barbe des Américains. C'est vraiment un coup de maître, hein, parce que c'est une position assez délicate en fait. C'est qu'on doit tout quelque part aux Américains, c'est eux qui fournissent le matériel, les blindés, on doit tout aussi à Churchill. Et d'un autre côté, ben, De Gaulle refuse la moindre concession. Bon, après, il y a des concessions qui sont inadmissibles, comme l'âme goth, mais De Gaulle très dur en affaires, et ça a été vraiment une prouesse de s'imposer dans cette guerre. S'imposer avec l'aide des alliés, tout en ne devenant pas un vassal de ces derniers. Et ça, franchement, c'est du génie. Donc le film se termine comme ça, et se termine surtout avec la réception de Churchill, à qui il rend les honneurs, parce que Churchill, il lui doit tout. Leur relation a été tellement centrale et capitale pour l'avenir de la France que je trouve que c'est bien de finir là-dessus. Ainsi se termine donc la bataille de Gaulle. Alors, même si vous avez déjà peut-être pu le deviner, qu'en ai-je pensé ? Sans grande surprise, j'ai particulièrement bien apprécié cette partie 2. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de rythme, de tension, de souffle épique. Et concernant ce souffle, Leclerc y est encore une fois pour beaucoup. C'est Leclerc, je trouve, qui porte cette partie 2. L'action est mieux amenée, les scènes de combat sont bien faites, et même pour ce qui concerne De Gaulle, je vous l'ai dit, c'est un vrai thriller politique. La tension est au rendez-vous et il y a un vrai équilibre. Thriller politique d'un côté, épopée militaire épique de l'autre, je trouve que ça fonctionne très bien. Même l'acteur qui incarne De Gaulle, Simon Abkarian, bah c'est mieux passé cette fois. J'avais émis quelques réserves la dernière fois, je lui trouvais un profil trop arménien. Je disais que je voyais l'acteur plutôt que De Gaulle la plupart du temps. Là, je sais pas pourquoi, c'est mieux passé, l'interprétation était très bonne, ou je m'y suis peut-être fait, je sais pas. En tout cas, c'est très bien incarné, c'est une belle performance. Que dire de plus ? Tout y est. On a un bon rythme, de bons acteurs, de l'action, de bonnes scènes, une tension permanente, du souffle. C'est vraiment la montée en puissance que j'attendais et qui manquait un peu dans la partie 1. Mais du coup, ça me fait même revoir un peu mon jugement sur la partie 1. Je trouve que j'ai été en effet trop dur avec elle. Parce que je trouve que les deux se complètent plutôt bien, finalement. Ça fait plaisir de voir que ces dernières années, le cinéma français se réapproprie les adaptations et les films historiques. Celui-ci en est un très bon exemple, et comme je vous l'ai dit, c'est une réussite. Donc voilà, j'ai revu mon jugement à la hausse, et tout simplement parce que cette partie 2 est venue m'apporter ce qui me manquait, c'est-à-dire du souffle. Un souffle épique, encore une fois, pour moi c'est très important, c'est vraiment ça qui donne le rythme dans un film historique. Et je comprends que ce soit plus compliqué d'apporter ce souffle épique concernant un biopic sur De Gaulle ou le gaullisme en général, parce que ils ont aujourd'hui une image assez poussiéreuse. C'est incomparable évidemment, mais c'est beaucoup plus facile de donner un souffle épique à l'épopée napoléonienne par exemple qu'à un biopic sur De Gaulle. Pour autant, Ridley Scott n'a même pas réussi. Mais là, ils l'ont fait de manière très habile en accordant un peu plus de place aux forces françaises libres, à Leclerc et à leur fait de gloire. C'est ce qui manquait au premier, donc merci Leclerc, vraiment. Et merci De Gaulle aussi pour l'aspect politique qui lui aussi est une réussite. Voilà. Voilà, vous avez donc mon avis définitif sur ce diptyque. Une première partie réussie, mais au rythme plus lent, et une montée en puissance dans la seconde partie. Le tout porté par d'excellents acteurs, une belle réalisation et une musique qui prend toute sa place au bon moment, surtout en partie 2 d'ailleurs. Voilà, c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me donner votre propre avis sur le film, j'y serai très attentif. En tout cas, voilà, j'ai revu un peu mon jugement à la hausse et j'ai bien apprécié cette partie 2. Merci encore à mon partenaire Kalos, n'oubliez pas d'aller visiter leur site, pour voir leur gamme France Libre, leurs autres collections et puis dernièrement leur tableau d'art. Le lien est en description et n'oubliez pas le petit code LAN10 pour avoir 10% de réduction. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.